Les câlins sont importants dans l'enfance, mais bien au-delà. Les récentes découvertes montrent qu'ils améliorent aussi le bonheur des adultes par la libération d'ocytocine, l'hormone anti-stress. Grâce aux caresses, notre système immunitaire serait également renforcé, entraînant aussi une meilleure cohérence cardiaque. Pour parler des câlins, je reçois cette semaine Céline Rivière, psychologue clinicienne, auteur du livre « La câlinothérapie » paru chez Michelon. Caroline Rivière, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, psy, à vous intéresser aux câlins ?
C'est de me rendre compte à quel point, finalement, les gens manquaient du toucher et manquaient de contact. Puisqu'on est, on le sent, dans une société qui devient de plus en plus individualisée, il y a une recherche qui émerge en ce moment, qui est de reprendre contact avec l'autre. Et donc, le câlin, c'était vraiment le sujet qui me permettait de parler de tout ça.
C'est assez paradoxal d'ailleurs parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication, de se parler, de se rencontrer et en même temps on a l'impression qu'il n'y a pas de contact.
Le contact est avec son téléphone, avec son ordinateur et on en perd même le contact visuel, ce qui était quand même à la base le premier des contacts pour en amener d'autres. Et effectivement là, on a l'impression d'être en contact avec beaucoup de monde. Mais réellement, on est en contact avec très peu de personnes.
Vous dites que le contact est devenu aseptisé dans notre société.
Voilà, c'est ça. C'est que le contact avec son téléphone ou son ordinateur, ça n'est pas ce qu'on peut appeler un contact. On a l'impression de parler, de communiquer avec beaucoup de gens, mais il nous manque le lien réel avec la personne. Et d'ailleurs, on voit dans les restaurants, de plus en plus, les gens sont l'un en face de l'autre et regardent chacun leur téléphone.
Mais est-ce que c'est nouveau ? Est-ce qu'il y a eu plus de toucher avant ? Parce qu'on entend aussi dire que autrefois on ne se touchait pas vraiment, que dans l'éducation il n'y avait pas de tendresse. Est-ce que c'est un problème d'aujourd'hui ?
En tout cas, les mères avec leur bébé ont toujours eu ça. Donc, dès le départ, c'est un contact qui est spontané, qui est chaleureux. Et on se rend compte aujourd'hui que retrouver ce contact qui est premier, qui est le contact vraiment de cœur, d'amour avec la mère, eh bien, ça a des vertus thérapeutiques. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, le câlin vient réparer quelque chose qui n'existe plus.
Vous dites que ça n'est pas un luxe de toucher l'autre, et surtout au niveau de la naissance, au moment premier de l'être humain, qu'est-ce qui se joue dans les premiers temps ?
Dans les maternités, on le voit, maintenant, on met tout de suite le bébé sur le ventre de sa maman pour établir le lien, le contact, et on le sait, aujourd'hui, ça libère cette hormone du bonheur, qu'est l'ocytocine. Donc une hormone anti-stress qui apaise et un bébé qui se sent complètement en lien, apaisé avec sa maman, on peut imaginer qu'il démarre bien dans la vie.
Quand on change son bébé, quand on le prend, quand on le porte, quand on touche sa peau pour s'occuper de lui, est-ce que c'est du câlin ou pas ? Parce que toutes les mères vont faire ces gestes
bien
domestiques.
Sûr. Alors, le câlin, c'est orienté dans le partage. C'est vraiment un acte d'amour. Voilà, on prend son bébé dans ses bras et on ne fait que ça. Ça n'est pas orienté pour « il est propre, on lui donne à manger ». On est dans un partage, on le regarde, le bébé nous regarde. Et là, c'est un échange complètement privilégié où on ne fait que ça.
Donc, on peut poser les gestes domestiques avec tendresse, mais le câlin, c'est encore autre chose. C'est prendre du temps avec.
Voilà, tout à fait. C'est prendre du temps avec son bébé, là, on parle des bébés, pour être dans le partage, dans l'échange, dans la douceur et la sécurité.
Mais est-ce que c'est évident pour une mère de vivre ça ?
Alors, ça ne l'est pas toujours, justement. Quand ça ne l'est pas, on a besoin de l'aider, parce que c'est vraiment important pour les deux. Et le contact se crée justement dans ces tout premiers moments. Donc si la maman se sent stressée, se sent inquiète, par exemple, il y a des mamans qui ont peur de laisser tomber leur bébé, alors si elle se sent comme ça, on a besoin de la rassurer. On a besoin de l'aider à lui faire comprendre que toute mère est une bonne mère. et qu'elle ne se mette pas dans la tête qu'elle n'est pas capable de s'occuper de son enfant. Donc, une maman stressée va transmettre du stress et de l'angoisse à son bébé. Donc, elle a besoin d'aide pour montrer que le câlin est quelque chose de sécurisant.
Le fait d'avoir été soi-même câlinée en tant qu'enfant, ça va aider la mère à câliner son enfant.
Absolument. Et ça, des études ont pu être faites chez les humains, on a fait des études même chez les rats, chez les lapins, qui montrent que les bébés qui ont été cajolés, qui ont été câlinés, eh bien vont tout naturellement retrouver cette disposition au câlin et à bien s'occuper de ses petits.
Vous dites que quand vous avez entrepris l'écriture de ce livre, vous avez posé des questions aux gens autour de vous et qu'on vous a beaucoup dit « Moi, j'ai manqué de tendresse, j'ai manqué de câlin enfant. »
Alors, j'ai eu les deux. J'ai eu des grands moments d'émotion en disant « Oh, je me rappelle comme c'était vraiment des moments tendres, affectueux dans les bras de ma maman, dans les bras de mon papa. » Voilà. Quand on parle du câlin, il y a énormément d'émotions qui reviennent parce que c'est un lien tellement fort. Et quand on en manque, c'est aussi, oui, vous avez raison, ce que je dis, c'est que ça crée une fracture, ça crée une douleur et ça manque à la construction. Ça manque à la sécurité qu'on doit tous avoir, qu'on devrait tous avoir.
Mais quand on n'a pas eu cette sécurité de base, comment après pouvoir poser des gestes que soi-même on n'a pas eu ou mal eu?
Alors, c'est toute la difficulté d'apprendre plus tard ce qu'on n'a pas appris dès le départ. Donc, ça demande plus de temps. Ça demande, alors on peut l'apprendre dans les thérapies, et ça demande aussi d'être encore plus sécurisé pour se sentir à l'aise. Donc on en passe par le contact, on en passe par la parole, on essaie d'expliquer que ces liens primordiaux peuvent être réparés.
Mais de quelle manière aujourd'hui?
Alors, on peut par exemple citer les ateliers câlins, qui sont des endroits où justement les gens réapprennent le contact, puisqu'on est dans un cadre bienveillant, on sait que tout le monde est là pour ça, et dans une attitude positive. Donc, on va savoir que le câlin qu'on va donner et échanger, puisque j'insiste sur le partage, on est là pour se donner du plaisir, pour se donner la sécurité dont je parlais.
Mais il faut avoir confiance pour ça.
Il faut avoir confiance. Mais ça s'acquiert, la confiance. Donc, au début, on peut être réticent. Et j'ai une dame qui me parlait des free hugs. C'est un petit peu la même chose, hein, entrer en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Donc c'est le mouvement des câlins gratuits. Hein.
Voilà.
On voit certaines personnes en ville.
Tout à fait.
Ont des pancartes câlins gratuits et ils peuvent s'entourer par leurs bras.
Voilà, se prendre dans les bras les uns des autres. Donc au début, hein, comme n'importe laquelle des expériences, c'est un petit peu angoissant. Et ensuite, on se rend compte que c'est chaleureux, que ça fait du bien. Et du coup, toute cette barrière se lève. Donc, les gens se sentent en confiance très rapidement. Le toucher, mais en confiance très rapidement. C'est ce qu'on a de premier, hein, encore.
Vous parliez des ateliers câlins. Ça existe en France.
Ça existe en France. Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Dacosta qui a créé les ateliers câlins et qui commence à bien fonctionner. Donc, je crois que c'est à Paris, à Marseille. Et ce sont des ateliers où les gens viennent et se sentent profondément bien.
Céline Rivière, dans votre livre « La câlinothérapie » est paru chez Michalon, vous dites que chacun d'entre nous a une sorte de bulle autour de lui qui délimite son territoire, son intimité. Et donc, pour se rapprocher, ça nécessite quand même de la confiance. Oui. C'est pas facile quand même de s'ouvrir à l'autre. Comme ça, vous parliez même des ateliers câlins ou des frieuses, ces inconnus vers qui on peut aller pour essayer d'avoir de la tendresse. Mais c'est compliqué quand même.
Bien sûr que c'est compliqué. Et justement, si ça existe, c'est que le manque est plus fort encore que le fait de se dire « ça va être difficile ». Donc, les gens qui arrivent dans ces free hugs, ces ateliers câlins, sont angoissés. Mais c'est un tel besoin que finalement, ils font un peu violence. Ils ressentent profondément en eux que c'est quelque chose dont ils ont besoin. Donc, passé ce cap, ils se rendent compte qu'ils ont eu raison. Mais vous avez raison, il faut réussir à ce que ça manque suffisamment pour passer ce cap.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière d'envahir aussi? Parce que je reviens au câlin, il y a des parents très envahissants qui sont toujours sur leurs enfants.
Bien sûr.
Est-ce que, voilà, il n'y a pas un équilibre à trouver entre l'apport d'une tendresse et puis un certain retrait, une certaine chasteté finalement?
Absolument. D'ailleurs, les parents très envahissants sont souvent ceux qui ont été en manque et qui savent à quel point c'est une souffrance. Donc, ils ont tendance à trop en donner à leur enfant, justement, pour qu'il n'en manque pas. Mais vous avez raison, il y a une juste mesure dans tout, et ça peut envahir. L'enfant n'arrive pas à se créer tellement il est entouré. C'est une communication, un câlin. Un câlin, c'est partager, et les deux doivent être d'accord. Et ça, c'est vraiment la base. Et un enfant qui repousse en disant « ça va, là, c'est trop », il faut vraiment le respecter. Communiquer, c'est-à-dire se parler. Il y a les gestes du corps, hein. Les gestes d'agacement où on sent son enfant qui est trop, qui se sent envahi. Alors on respecte ça. C'est très important.
Est-ce qu'il y a des moments pour le câlin privilégiés dans l'éducation?
Alors il y a des moments privilégiés qui sont les moments, par exemple, du coucher, où l'enfant a besoin d'être sécurisé. Donc le moment du coucher est vraiment celui par lequel on peut vraiment être dans le plein partage, dans la pleine communication du corps et de la chaleur.
Et comment faire justement pour se séparer après? Parce que c'est souvent le problème de la séparation qui pose problème.
Il faut vraiment l'instituer en tant que rituel. Alors il y a l'histoire, il y a le câlin. Et à partir d'un moment, l'enfant sait combien de temps on se câline, combien de temps c'est bon pour les deux. Voilà, ça se sent.
Est-ce qu'il y a un âge pour câliner ses enfants et puis un âge où c'est terminé?
Avec les adolescents, c'est beaucoup plus difficile puisque justement, ils sont en rejet. Il n'y a pas d'âge puisqu'en fait, on est tous différents et on en a tous plus ou moins besoin selon les moments. Donc, c'est des questions d'écoute. On va sentir quand son enfant a besoin d'être pris dans les bras, quand il ne se sent pas bien, quand il a du chagrin. Il y a des moments comme ça qui sont très importants. Ça sert à sécuriser, à dire « je suis là, tu peux avoir confiance ».
Donc ce câlin, il peut être pratiqué, je dirais, entre la mère et l'enfant, mais aussi dans la famille, entre frères et sœurs aussi, on peut se câliner?
Oui, évidemment. D'ailleurs, on voit pour les parents chez lesquels le câlin se fait naturellement, les frères et sœurs se câlinent naturellement. À partir du moment où on ne met pas de tabou sur le fait de se toucher, de se câliner, d'être ensemble, il ne faut pas oublier que c'est un acte d'amour, hein. Donc, les frères et sœurs se câlinent naturellement. Après, voilà, avec toute... parfois, ils s'énervent les uns les autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à certains moments de leur vie, de leur, à différentes étapes, capables de revenir dans ce contact.
Céline Rivière, nous avons parlé des enfants, donc le besoin des enfants d'être rassurés, d'être touchés, puisque ça commence dès l'enfance. Pour les adultes, on sait que généralement, c'est en grandissant que se perd le toucher.
Oui.
Comment ça se joue?
Alors, ce qui se passe pour les adultes, c'est que souvent, on n'ose pas. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être mal compris dans son toucher. Les mélanges avec la sexualité, mais qu'est-ce qu'on va se dire si je le touche? Selon les pays, d'ailleurs, c'est très différent, hein. Y a des pays, les latins touchent beaucoup. Ça dépend du cadre.
Dans chaque culture, il y a une approche différente du toucher. On voit en Afrique, par exemple. Ça n'a
voilà.
rien à voir avec...
Et d'ailleurs, c'est lié au massage, hein. Les bébés africains sont extrêmement massés. Il n'y a pas cette peur du toucher, cette peur du contact que nous, on peut avoir.
Donc pour les adultes, si je sens, par exemple, qu'avec un ami, j'ai envie de poser un geste, je peux lui proposer. Il faut parler avant.
Voilà, on peut le dire tout simplement. Il y a des moyens de le dire. Il y a des moyens de poser la main sur l'épaule, de sentir que ça se passe bien ou pas. On va pas le prendre tout de suite dans ses bras, mais juste toucher doucement, une approche. En fait, ça remet beaucoup de contact, et je parle pas seulement physique. On se rapproche aussi en se touchant, hein.
Mais dans une société hyper sexualisée, justement, bien faire la différence entre l'amitié, la confiance, l'amour, désintéressé. Et puis, la sexualité, c'est pas toujours simple, là encore.
C'est pas toujours simple, mais il n'y a pas que le toucher, c'est-à-dire qu'il y a le langage qui va aller avec, il y a l'attitude qui va aller avec. C'est tout ce qu'il va y avoir autour qui va donner le message. Est-ce qu'on est dans le câlin? Est-ce qu'on est dans le toucher et ce partage? Ou est-ce qu'on est dans la sexualité? Parce qu'un câlin, c'est entouré de plein d'autres choses. Donc là, ça va donner le message.
Pour les couples spécifiquement, donc qui ont une histoire d'amour, généralement, la sexualité a généralement sa place. Et alors le câlin, quelle place il prend?
Il est dans le partage, parce que dans la sexualité, il y a toute la notion de performance, de il faut être à la hauteur, il y a beaucoup ça. Tandis que dans le câlin, on partage, on est bien chacun et tous les deux. Et en plus, ce qu'il y a de formidable, c'est que ça libère les mêmes hormones. Alors pas de façon aussi, d'un coup comme dans la sexualité, mais c'est beaucoup plus apaisant, ça met dans un état de plénitude et de tendresse, d'amour, de partage.
C'est la fameuse ocytocine, c'est ça ?
Voilà, c'est l'ocytocine. L'hormone qui se développe, en fait, dans tous les moments où on a besoin d'être dans l'attachement.
Est-ce que c'est pas un désir davantage féminin, les câlins, c'est ce qu'on pourrait se poser comme question, parce que souvent les femmes veulent plus de tendresse que les hommes.
Alors, j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer. On a pu dire à certains moments que les hommes accueillaient leur part féminine, on l'a dit comme ça, mais ils sont plus sensibles aussi, de plus en plus, à une écoute de leurs besoins, de leurs envies. Ils ne sont plus ce dont je parlais, forcément dans la performance, comme ils ont pu l'être à un moment, mais dans un bien-être plus global.
RCF. Céline Rivière, vous consacrez toute une partie de votre livre aux effets bénéfiques que le câlin apporte sur le plan de la santé. Vous citez beaucoup de recherches dans ce livre, notamment les recherches en épigénétique, qui montrent que les caresses, la douceur d'un environnement agit sur le corps. De quelle manière exactement ?
Alors, l'épigénétique, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui ouvre tout un champ de promesses. C'est-à-dire que ça redonne à chacun son libre arbitre. On n'est plus dans le tout ADN avec tout est pensé et c'est comme ça, on ne peut rien changer.
Programmation.
De la programmation, exactement. Aujourd'hui, on sait qu'on peut agir sur soi de différentes façons. On a beaucoup parlé de la nutrition, on a parlé de la méditation, de tout ce qui peut nous faire du bien et qui change complètement notre vie. C'est-à-dire que l'ADN, là, il y a des choses qui vont s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Et selon ce qui s'exprime ou pas, notre vie en sera complètement différente.
Et c'est la manière dont nous vivons qui fait que telle chose s'exprime ou pas, l'environnement,
absolument.
La manière dont nous nous comportons qui a des influences sur les gènes. Et les gènes ne font pas totalement l'individu, il y a une marge de manœuvre.
Exactement, c'est exactement ça. Ça va s'exprimer ou pas. Et l'environnement, c'est ce qu'on fait. Plus, par exemple, on va être dans un environnement serein, tranquille, moins on va laisser le stress nous impacter et moins on développera de maladies, par exemple. Puisqu'on sait à quel point le stress est générateur de maladies pour le cœur, pour tout un tas de choses. Donc, on va agir directement sur notre santé.
Le câlin fait partie de cette hygiène de vie.
Exactement. Comme tout un tas de choses, hein, comme le yoga, ça a été démontré.
Mais de quelle manière ?
Eh bien, on s'est rendu compte que, par exemple, les couples qui se câlinaient plus étaient dans des situations de tranquillité et vivaient beaucoup plus harmonieusement. Et on sait aussi, depuis longtemps, que les gens en couple vivent plus longtemps. Donc ça a un impact direct, non seulement sur la longévité du couple, mais sur la longévité tout court.
Alors, vous parlez aussi des neurones miroirs dans ce livre. Quel lien avec les câlins ? C'est quoi les neurones miroirs ?
Je peux vous raconter une petite anecdote dont je parle dans le livre. En fait, c'était un groupe de chercheurs qui faisaient des études sur complètement autre chose. Et il y avait un chimpanzé qui avait des électrodes sur lui. Et ils se sont rendus compte, ils étaient en train de manger, que quand ils mangeaient, eh bien, le singe qu'ils avaient en face d'eux hein, activait les neurones comme s'il faisait les mêmes gestes qu'eux. Donc ils se sont dit, c'est quand même très étonnant. Et ils se sont rendus compte par la suite que finalement, quand je vous regarde faire un geste, alors que moi-même je ne le fais pas,
par exemple, bâiller,
voilà, par exemple, bâiller, c'est un excellent exemple, eh bien, mes neurones s'activent comme si j'étais en train d'accomplir ce geste. Et donc, par rapport au câlin, justement, c'est en miroir tout ce qu'on peut recevoir de la bienveillance, de la gratitude, de l'amour de l'autre, et qui active chez nous, même si au départ on n'est pas dans ce sentiment, ça active chez nous toutes ces ressources qu'on a besoin d'activer. Ça rejoint un peu la rééducation hein, dont on parlait tout à l'heure. Quand on est dans les bras de quelqu'un qui a une vraie capacité de don, d'amour et de tendresse, eh bien on peut beaucoup plus facilement se laisser aller, notamment grâce aux neurones miroirs.
Donc un être empathique,
oui,
va susciter en face de lui de l'empathie.
C'est exactement ça. D'ailleurs, on a dit que les neurones miroirs étaient à la base de l'empathie. C'est qu'on est dans une telle ouverture que c'est une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur au sens large.
Vous dites aussi, Céline Rivière, dans votre livre, qu'il y a des mondes comme ça qui ont besoin de câlins, plus particulièrement. Les personnes âgées,
oui.
Dans les maisons de retraite aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait dans ce sens-là?
Alors, ce qui se fait, c'est plus spécifiquement avec les animaux, puisque on sait que caresser un animal, ça apaise, ça fait du bien. Tant d'ailleurs pour l'animal que pour la personne qui le fait, là aussi, on est dans le partage. Et les gens qui viennent comme ça avec des animaux dans les maisons de retraite se rendent compte que ça recrée du lien. Ça recrée du lien entre les résidents et avec le personnel. Parce que dans les maisons de retraite, justement, ce qui manque, c'est on ne partage plus grand-chose. Chacun est un peu dans sa bulle. Ce sont des mondes qui sont assez durs. Et le chien vient remettre de la vie et le partage, comme ça, dans la caresse, vient remettre énormément de vie et d'amour.
Dans le monde du handicap également,
oui,
le toucher a un grand rôle.
Oui, on remarque que le toucher n'est que très peu impacté. Donc, même dans les handicaps, eh bien, au contraire, il est décuplé. Donc, toucher, ça permet vraiment d'entrer en contact avec le monde. Et donc, de s'en faire une idée et de transmettre. C'est un vrai vecteur de communication, le toucher.
Vous, Céline Rivière, vous êtes psychothérapeute.
Oui.
Est-ce que vous utilisez le toucher dans vos thérapies?
Alors, on n'est pas censé utiliser le toucher, mais il arrive parfois que quand les gens se sentent tellement en souffrance, oui, on met la main sur le genou pour apaiser et on se rend compte que c'est la meilleure façon de faire d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui est débordé par ses émotions, il ne peut être ramené à un état de plénitude que par le toucher. Le geste dit parfois beaucoup plus que ce qu'on peut dire en parlant. Voilà, un geste donne de soi.
Merci à vous. Merci Céline Rivière. Je donne le titre de votre livre. Ça s'appelle La câlinothérapie. C'est paru chez Michalon. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.